La paléoanthropologie, c'est la discipline qui étudie l'évolution de notre lignée humaine. Cette science qui se base principalement sur les ossements est à l'origine de très grandes découvertes sur les différentes espèces humaines qui ont peuplé notre planète. Une véritable saga faite de rebondissements mais aussi de controverses. La dernière affaire qui agite la paléoanthropologie concerne celui qui justement est considéré jusqu'à maintenant comme le plus vieil ancêtre des humains, Toumaï. Et selon une étude publiée il y a quelques jours, Toumaï ne serait pas bipède mais quadrupède. Une question capitale dont nous allons parler avec vous, Yves Coppens. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le co-découvreur, faut-il le rappeler, de Lucie, la superstar des Australopithèques. Et avec vous, nous allons donc revenir sur cette polémique qui entoure le préhumain Toumaï, mais surtout sur la question centrale de la bipédie chez l'homme. Vous répondrez, Yves Coppens, aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On se retrouve dans un instant. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
14h30 pétante, on passe au vert avec vous.
Oui, et les pigeons un petit peu trop nombreux à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme.
Dans la deuxième demi-heure, dernier reportage d'Antoine Lee sur son stage de survie dans la forêt diégenaise. Et puis enfin, dans sa chronique de l'humain, Evelyne Ayer nous parlera des Yamana, un peuple d'éleveurs nomades de l'âge du bronze. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Anna Massardi avec à la technique Pauline Laverdure.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Yves Coppens, très heureux de vous retrouver cet après-midi, paléontologue, paléoanthropologue, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, au Collège de France, membre de l'Académie des Sciences, et nous vous avons invité cet après-midi pour nous éclairer, entre autres, sur cette question de la bipédie de Toumaï, qui est toujours considérée à ce jour, je le disais, comme le plus vieil ancêtre de l'humanité. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous faire réagir sur la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, car vous avez tous les deux en commun cette année 1974, qui a été un moment très particulier ddans vos parcours respectifs. Mai 74, Giscard d'Estaing arrive à l'Élysée et novembre 74, vous découvrez Lucie en Éthiopie. Est-ce que cette découverte de Lucie vous a valu d'être invité par le président de la République à l'époque ?
Le président, en effet, nous a invités, je veux dire, un certain nombre d'anthropologues, de paléanthropologues, de préhistoriens, pour le plaisir. Moi, ouais. J'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Il faisait des déjeuners, je suppose qu'il en faisait d'autres, culturels, en quelque sorte, et c'est merveilleux de la part d'un président qui a quand même d'autres choses à faire, de pouvoir s'offrir comme ça un petit moment de distraction, d'information, d'éducation. Avec quelques personnes, vraiment pour rien, quoi.
Ouais.
Alors, il se trouve qu'un jour, il nous a invité André Leroy Gourand, qui était mon prédécesseur au collège, Henri de Lumley et moi-même, et à déjeuner, simplement, comme ça, pour parler de préhistoire. Et on s'est amusé avec de Lumley à venir avec des crânes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quatre à table, on était six. Moi, j'avais apporté un petit crâne découvert au Tchad, et puis de Lumley avait apporté son crâne de Totavel. Ouais. Et alors, c'était amusant parce que Giscard était très intéressé par tout, donc il les a regardés avec beaucoup d'attention. Le roi Gourand avec Cro-Magnon et puis la peinture de Lascaux, ça c'était formidable.
Ouais.
Pour Giscard, c'était le vrai ancêtre des Français, qui faisait des merveilles, enfin le grand
ça,
artiste.
Ça en jetait à l'Élysée, ouais.
Ensuite, de Lumley avec Totavel. Totavel était français, c'est déjà quelque chose, et puis il était chasseur, donc c'était quelque chose aussi qui l'intéressait. Mais enfin, il y avait moins d'intérêt. Et alors moi, avec mes Africains, non, aucun. Beaucoup de politesse, mais vraiment...
Ah oui, c'est vrai, c'est passé complètement, ça fait un vide.
Pas à ce point-là, mais...
Donc il s'intéressait quand même pour de vrai à votre discipline, quand vous avez découvert Lucie, quand même, ce qui n'est pas rien.
Oui, sûrement.
Il vous a dit quoi ?
Mais il s'intéressait sûrement à tout ça de manière sincère, autrement il n'aurait pas eu cette idée de faire un déjeuner comme ça pour rien.
Ouais.
Et d'autre part, quelques temps après, il y a eu un grand congrès de préhistoire à Nice. Et il a fait, il y avait 3000 personnes,
ouais.
Et il a fait un grand repas d'une vingtaine de personnes à l'Élysée, dont j'étais, pour célébrer la préhistoire, en quelque sorte. Donc il y avait un vrai intérêt, une vraie proximité. C'était pas le genre à faire des faux semblants. Hein. S'il nous invitait, c'était parce qu'il était intéressé. Et encore une fois, pour le plaisir, quoi. Moi, j'admirais beaucoup ce personnage, qui était plein de choses à la fois... grand homme intelligent, brillant, polytechnicien, ouais. etc. Et en même temps avec une jolie naïveté, je trouve.
Ouais.
Alors et si je vois dans sa littérature.
Ah oui, vous trouvez. Ah oui, bah vous êtes critique là.
C'est oui, ses romans Il n'est pas rentré pour ça à l'Académie française.
Et bim. Voilà. Donc si on vous invite avec Camille à déjeuner, vous viendrez avec des ossements à table, c'est ça le triche à chaque fois.
C'est votre petit truc.
En général, j'en ai dans ma poche. Oui.
Ah, vous en avez avec vous, là?
Ah, ouais. Ah,
évidemment.
Vous avez quoi dans la poche, Yves Coppens?
Ne pas un fémur.
Quelques dents qui traînent comme
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, pardon, je parlerai justement de François Mitterrand juste après. On va l'écouter dans cet extrait, c'est en 1977. Alors, on a cherché quelque chose qui avait un rapport avec Lucie ou les origines de l'homme, on a bien eu du mal à trouver, mais par contre, comme on parle d'écologie dans cette émission, apparemment, le sujet intéressait Valéry Giscard d'Estaing. C'était une année particulière pour lui, 1977.
D'abord, l'arbre. Nous n'avons pas actuellement dans notre urbanisme, nous ne donnons pas une place suffisante à l'arbre. Et quand je survole la région parisienne, par exemple en hélicoptère, je vois que dans les constructions que l'on fait à l'heure actuelle, même de logements individuels, la place de l'arbre est tout à fait insuffisante. Il faut donc développer notre politique de plantation. Et je souhaite que nous instituions, à partir de cette année, une journée nationale de l'arbre, qui aurait lieu le premier jour de printemps, et au cours de laquelle, d'une part, il y aurait un enseignement dans les écoles, au point de vue des problèmes et la fonction de l'arbre, et puis un certain nombre d'actions de plantation symboliques ou exemplaires. Alors cette année, à cause des élections municipales, ça ne sera pas le 21 mars, mais ça sera sans doute le 16 avril.
Voilà, Giscard dans son hélicoptère au-dessus
de
la forêt, ça c'est génial.
L'écologie, mais je plante des arbres plutôt que d'arrêter l'hélico.
Voilà, mais c'est en 1977, alors évidemment c'est un peu spécial. Et alors François Mitterrand, Yves Coppens, premier secrétaire du Parti Socialiste à l'époque, note dans son bloc-notes hebdomadaire en 77 justement, cette affaire des arbres, je veux dire la journée nationale ordonnée par Valéry Giscard d'Estaing, illustre sa manière mieux que toute autre image. L'idée d'inviter les Français à planter des arbres est en soi une bonne idée, dit Mitterrand, qu'il ne soit ni le premier ni le seul à l'avoir eu, ou comme le suggère de malicieux commentaires qu'une certaine urgence électorale et stimuler ses réflexes écologiques n'enlève rien à son mérite, mais planter en avril, d'heureuse, écrit Mitterrand, l'idée devient fâcheuse. À tournebouler les saisons, les fruits ne passent pas les promesses des fleurs. C'est quand même génial ce
superbe,
texte. Hein.
Superbe. Voilà.
Et puis un petit tacle au passage.
Oui, puis ça veut dire une belle connaissance de l'écologie et de l'histoire naturelle quand même.
Ouais. Quand on évoque les arbres et quand on évoque Lucie, il y a un lien direct quand même qui se fait là.
Ben, c'est-à-dire que Lucie grimpait, donc si elle grimpait, il fallait qu'elle ait quelque chose à grimper. Ouais. Et en l'occurrence, oui, il y avait des arbres à son époque. Et puis moi, je suis très sensible à l'arbre aussi. Il y a un certain nombre d'arbres qui me touchent beaucoup. Et en réfléchissant un peu, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était des arbres un peu parasols. Du genre le superbe arbre des savanes d'Afrique,
ouais.
ce grand acacia parasol, ouais, qui est magnifique. Exemple, le pin romain, par exemple. Quand on arrive à Rome, ces pins dont les frondaisons sont au-dessus de vous, c'est magnifique.
Mm-hmm.
Et j'ai toujours été sensible aux palmiers. Alors, vous me direz que c'est peut-être l'attirance de l'attraction des palmes, je ne sais pas. Mais les palmiers, aussi bien les palmiers dattiers que les palmiers doumes, que d'une certaine mesure les cocotiers. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste.
C'est quoi
vous
c'est
mes arbres préférés, quoi.
Ouais. Mais c'est quoi? C'est les palmes académiques qui vous attirent, vous, Yves Coppens?
Non, je les ai, merci beaucoup.
Ça y est, ben oui, justement. Ouais. Mais vous êtes heureux de les avoir.
Non, je plaisante. Mais c'est vrai que les palmes m'ont toujours attiré. Peut-être une attirance aussi vers d'autres pays où ces arbres-là poussent, et finalement ils poussent aussi dans le sud de la France.
Ouais.
Mais dès qu'on arrive en Afrique, dès qu'on arrive sur la côte, il y a des cocotiers, dès qu'on arrive à l'intérieur des terres, moi j'ai connu le Sahara pendant 7 ans, et donc l'arrivée au palmeraie était toujours une merveille, et puis aussi un apaisement. Enfin, c'était...
On reparlera écologie avec vous tout à l'heure, parce que l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, ben, c'est celle qui agite la paléoanthropologie au sujet de Toumaï, présenté donc pour l'instant comme vraiment l'ancêtre de l'humanité, puisqu'il est âgé, daté de 7 millions d'années. Et une publication très récente, publiée dans le Journal of Human Evolution, suggère que Toumaï n'était pas bipède, mais quadrupède. Nouveau rebondissement. Enfin, ça fait un petit moment que ça dure, quand même, autour de Toumaï, Yves Coppens.
Oui, alors vous allez être déçus, parce que je ne peux guère en parler, étant donné que l'article des collaborateurs de Michel Brunet...
Le découvreur de Toumaï.
C'est ça. Est en ce moment soumis,
ouais,
à des revues internationales. Et donc, dans la mesure où il n'est pas encore sorti, je ne peux pas en parler. Et moi, je continue à beaucoup croire en l'étude de Michel Brunet. Michel Brunet a étudié le crâne, et il a étudié parfaitement le crâne, et le crâne montre par un certain nombre de traits qu'il est véritablement installé sur une colonne vertébrale qui implique une station redressée. Mm-hmm. Donc il est redressé. Mais j'ai des choses à vous dire à ce point de vue qui ne sont pas relatives à Toumaï, parce que je ne connais pas suffisamment.
Alors, on termine le dossier Toumaï, parce que c'est intéressant. Là, ce qui nous intéresse, c'est le fémur,
rapports,
en l'occurrence.
Hein.
Ouais. Là, c'est le fémur qui a été, qui a fait l'objet de l'étude, qui n'a même pas été, d'ailleurs, observé directement, mais observé par photographie. Et le fémur qui serait celui de Toumaï, parce qu'il faut aussi parler au conditionnel. Il a été trouvé sur le site du crâne de Toumaï, mais qu'est-ce qui nous indique que ce soit vraiment celui de Toumaï?
Rien. C'est classique en paléontologie. Vous ramassez une faune, vous ramassez des quantités d'animaux. Il se trouve que vous ramassez d'une part des proboscidiens, c'est-à-dire des éléphants, d'autre part des suidés, c'est-à-dire des cochons, d'autre part des équidés, c'est-à-dire des chevaux.
Oui.
Si vous trouvez des os qui vont en même temps que les crânes, à peu près de la même taille et puis de la même espèce, vous les associez sous le même intitulé de la même espèce. Mais à chaque fois, on est jamais sûr, dans la mesure où on trouve pas un squelette entier, et dans ces époques-là, ça n'arrive jamais. Vous ne serez jamais sûr que le fémur appartient au crâne, si je puis dire. Mais enfin, quand on trouve un fémur d'une taille qui correspond à peu près à ce que le crâne pouvait indiquer comme reste de squelette, il y a quand même quelque chance que ça ait un rapport. Et on dit que par parcimonie, c'est-à-dire la manière la plus directe, la plus simple, on associe les deux. Et ça se fait depuis toujours dans la paléontologie.
Et le fémur en lui-même, est-ce qu'il peut indiquer justement une bipédie très nette ou pas? Ou un ossement comme ça isolé ne peut pas indiquer quoi que ce soit?
L'ossement isolé peut indiquer des choses, mais cet ossement d'abord n'est pas complet. Il n'a pas ses deux extrémités, ses deux épiphyses. Et d'autre part, quand les auteurs là, à qui il faut reprocher d'ailleurs le fait d'avoir publié l'ossement d'un autre, si j'ose dire. Ça, c'est pas... C'est évident.
C'est Macarelli, en l'occurrence, le premier signataire de l'étude.
Ça ne sera jamais pardonnable, ça. Donc, on a eu juste accès à des images. Je crois qu'il l'a patouillé, lui, pendant quelques minutes. Et donc, il ne peut pas savoir ce que représente l'intérieur de cet os, par exemple. Et l'intérieur d'un os révèle forcément les lignes de force, enfin la manière dont cet os est utilisé. Et si on appuie dessus, au lieu de le laisser pendre dans les arbres, il n'a forcément pas la même densité d'ossement et la même répartition de cette densité à l'intérieur de l'os. Enfin, il y a beaucoup de choses que l'on peut appréhender en l'étudiant un petit peu mieux que sur une image.
Et le fait que ça fasse un débat comme ça depuis des années, traduit évidemment l'importance de répondre à cette question de Toumaï était-il bipède ou pas. Est-ce que vous pouvez juste nous redire pourquoi c'est si important de répondre à cette question, tout simplement?
Je m'étonne moi-même. C'est un petit peu la compétition un peu ridicule. De la course au premier, quoi.
Ah, c'est ça.
Est-ce que c'est le premier...
Ancêtre de l'humanité?
Oui.
Mais il y a quand même un intérêt, enfin, évidemment, un intérêt scientifique derrière. Mais non, là, vous pensez que c'est plus la course au prestige du premier à le sortir?
C'est bien sûr que sur le plan scientifique, c'est extrêmement important. Mais on sait très bien que des êtres de ces années-là, 6 millions, 7 millions, 8 millions, 10 millions, on n'en connaît pas grand-chose. Donc, à chaque fois qu'on en trouve un, étant donné la répartition de tous ces gens, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est une branche nouvelle, donc c'est important. Donc la répartition des caractères et l'association des caractères est nouvelle. Donc de toute façon, c'est intéressant, de toute façon. Mais là, il y a un petit peu, on voit bien dans les commentaires, il y a un petit peu la course entre celui-là qui a 7 millions, puis celui qui arrive derrière qui a 6 millions. Vous savez, la paléontologie humaine, dite paléo-anthropologie, a toujours été comme ça, quoi.
Vous avez fait des jaloux quand vous avez découvert Lucie?
Oh là oui.
Bien sûr. Vous avez eu des remarques, je veux dire, vous êtes pris des petits mots, des petites
non,
lettres.
Non, c'est jamais, enfin, en ce qui me concerne, jamais. D'accord. Direct, donc je ne les ai pas entendus. Mais à une certaine époque aussi, c'était la course aux plus vieux entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. L'Europe, moi j'ai connu un patron qui s'appelait Jean Pifto et qui faisait tous ses efforts, c'était drôle, un vrai scientifique, tous ses efforts avec un collègue suisse et un collègue espagnol pour que ce soit l'Europe qui soit véritablement à l'origine de l'humanité.
Enfin, il y a aussi une querelle finalement entre vous et Brunet sur l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest avec l'Eastside Story. Où est-ce que l'histoire s'est passée à l'Ouest, comme le prouve Toumaï, hein.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas une querelle, mais il est un fait. Enfin, on l'a débattu chez vous,
hein. Ouais.
Que Brunet a raison et que c'est beaucoup plus large que seulement l'Afrique orientale. Donc, il n'y a pas eu de querelle. Moi, je me soumets à la science.
Absolument.
Dans la mesure où tout d'un coup, il y a une information qui
le crâne
contredit
de Toumaï au Tchad.
Oui, ouais. C'est ça. Et puis d'autres choses aussi, l'Australopithèque aussi, du Tchadien d'un autre.
Absolument.
Il y en a un autre de 3 500 000 ans qui est aussi important.
Allez, Yves Coppens, vous êtes notre invité cet après-midi. On parle Bipédie avec vous dans un instant et les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
C'est toujours quand...
Drôle d'histoire, c'était Junior.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Monsieur Coppens, Lucie, qu'est-ce qu'elle vous a appris ?
Eh bien, Lucie, vous savez, c'est un nom très joli, très poétique pour un petit squelette, puisque c'est un squelette qui a un tout petit peu plus d'un mètre de hauteur, découvert dans l'Afar, dans l'est de l'Éthiopie, par une mission que dirigent Taïeb, Johansson et moi-même. Et ce petit squelette est extrêmement intéressant car il a plus de 3 millions d'années et il faut attendre seulement 100 000 ans pour trouver le squelette suivant. Autrement dit, c'est une découverte tout à fait extraordinaire. Et cette Lucie vient de recevoir un nom beaucoup plus sérieux et moins poétique en même temps, puisque à 4, nous l'avons baptisé récemment Australopithecus afarensis. Alors c'est pas très joli, mais ça veut dire l'Australopithèque, c'est-à-dire un ancêtre de l'homme qui n'est pas encore homme, de l'Afar, tout simplement. Et cette Lucie représente donc l'hominidé, le membre de la famille de l'homme, qui n'est pas encore un homme, juste avant l'homme.
Voilà, c'était en 1974. Très pédagogue, hein, déjà, à l'époque, Yves Coppens. Hein.
Merci.
Vous savez parler aux journalistes.
C'est vous qui le dites.
Ben oui, non, mais c'est vrai, mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous connaisse bien. Non, c'est votre capacité, comme ça, à expliquer les origines de l'humanité. Et donc, Lucie, qui était la plus ancienne à l'époque, en 74, hein, pour le
c'est
coup.
C'est ça. Hein. Oui et non. Sur le plan public, sur le plan journalistique, oui. c'était la plus ancienne et on a clamé que c'était la plus ancienne.
Ouais.
En fait, il y avait une dent qui venait de Lukeino, qui venait du Kenya, et qui avait le double, qui avait 6 millions d'années. Et moi, j'ai toujours eu cette dent à l'œil, et Brigitte Senu et Martin Pickford le savent bien, si bien que quand ils sont retournés en Afrique, moi je leur ai dit, à votre place, j'irai à Lukeino, et c'est là qu'ils ont trouvé en ruine, en fait.
Ouais, ouais.
Et cette dent avait été récupérée par Martin Pickford pendant sa thèse, et c'était une deuxième molaire supérieure, et qui faisait débat, quoi. Et puis les gens l'avaient négligé parce que sur une dent, on fait pas le monde, quoi. Mais c'était à tort.
Ouais.
Et moi, j'avais toujours cette dent en tête. Donc, au moment où on a trouvé Lucie, on connaissait le double. On connaissait quelqu'un qui...
Ouais. Enfin, quelqu'un. Sauf que vous avez découvert un squelette, quand même, qui était...
Ah oui, bien sûr.
Voilà, il y avait aussi une image qui était beaucoup plus frappante.
Ah, ben, oui.
Mais c'est vrai que pour être tout à fait juste, il y avait ce 6 millions d'années, là, qui existait.
Mais pour être tout à fait juste, ce qui a fait le succès de Lucie, c'est que l'ensemble de ces ossements a permis de refaire une silhouette, de reconstituer une silhouette.
Ouais.
Et quand on fait une silhouette, on visualise tout de suite la personne. Mmh. Et dans la tête des gens, Lucie, au lieu d'être un squelette, est devenue un petit personnage vivant.
Ouais.
Et pour les enfants, ça a été considérable.
Allez, on parle de la bipédie avec vous, et Lucie l'était, bipède, et les questions des auditeurs.
Ronan sur franceinter.fr, j'ai entendu dire que la bipédie est apparue le long de cours d'eau, ainsi nos ancêtres se déplaçaient plus facilement debout dans l'eau, le long d'une rivière ou d'un lac. Avez-vous entendu parler de cette théorie, Monsieur Coppens ?
Oui, ben forcément, j'ai entendu parler de tout dans ces choses-là. Ce que je peux dire, c'est que tous les préhumains et humains ont besoin d'eau. À chaque fois qu'on les trouve, ils sont dans des régions où l'eau est accessible.
Mmh.
Et en général, ils s'installent, quand ils s'installent, près de l'eau, ça c'est sûr. Ceci dit, le redressement du corps, la bipédie, est plutôt dû au fait que, se trouvant dans un milieu plus découvert qu'ils n'étaient, ils ont eu accès d'une part aux fruits qui étaient dans les arbres, et aux racines et aux tubercules qui étaient au sol. Et l'adaptation, moi j'ai toujours trouvé ça étonnant, mais il se trouve que l'adaptation, la réponse darwinienne à cette histoire-là, a été l'adoption d'un corps redressé. Et le redressement du corps, c'est toute une série de révolutions. Sur le plan anatomique, sur le plan de la tête, sur le plan cérébral, c'est toute une révolution.
En lien avec donc le climat ou les changements environnementaux, parce qu'on passe d'une forêt dense à des paysages plus ouverts.
À deux choses. On part en effet d'une forêt dense à toujours un aspect de forêt épaisse une partie du paysage, et d'autre part une ouverture du paysage. Et ça, on le sait parce que les mammifères de l'époque, on leur a étudié les dents, et leurs dents montrent leur alimentation, et leur alimentation montre que les céréales étaient beaucoup plus développées, qu'ils mangeaient des herbes, et pour manger des herbes, il faut qu'il y ait des herbes, c'est-à-dire qu'il faut que la forêt se soit ouverte et qu'il y ait des grands espaces de pâturage, en quelque sorte. Donc, on le sait parfaitement, et il se trouve, moi je trouve ça toujours superbe, c'est la beauté de la science, c'est la coordination des choses. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un grand coup de froid. La Terre a dû se trouver différemment sur son écliptique, et ça a entraîné un coup de froid qui a entraîné l'apparition de l'Antarctique.
À quelle époque exactement ?
10 millions.
Ouais.
10 millions d'années avant Toumaï.
Ouais.
Et l'Antarctique a fait très froid aux deux pôles, et puis du coup très sec aux tropiques. Et très sec aux tropiques, ça a ouvert la forêt. Et l'ouverture de la forêt, ça a mis le bonhomme debout.
Donc
on est debout à cause de ça depuis cette époque, c'est idiot.
Bah,
donc
c'est
vous avez répondu en partie à Patrice qui justement posait la question sur cette théorie de la remarque que la fonction crée l'organe, donc que vous disiez battu en brèche par Darwin. Il y a quand même un lien donc entre la fonction et l'organe finalement.
Oui, mais c'est simple, vous savez, c'est l'histoire de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'un groupe d'animaux se trouve tout d'un coup confronté avec un changement climatique. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le groupe des animaux en question, il y a quelques-uns qui sont mutants et qui ont par hasard la fonction adéquate qui correspond à l'environnement adéquat. Ces gens-là vont survivre plus longtemps que les autres, ils vont avoir plus d'enfants que les autres. Ces enfants-là seront probablement porteurs de la même transformation, de la même sélection. Et à terme, c'est toute la population qui va se trouver transformée. Mais tout ceci s'est fait par des essais, par des erreurs, par des essais, par des erreurs que, en général, le paléontologue ne voit pas. parce que ça a disparu. Et en général, le paléontologue, bien sûr, a accès à la chose déjà réalisée et puis raconte l'histoire a posteriori.
Mais est-ce que la bipédie, Yves Coppens, ça signe finalement le statut d'humain dans l'histoire de notre évolution ou pas ?
La bipédie permanente.
Oui. Permanente, ouais.
Parce que la bipédie, comme vous le savez bien, existe. La bipédie permanente chez les primates, bien sûr.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Parce que la bipédie existe chez, je sais pas, le orang-outan de temps en temps, existe
ouais,
chez le chimpanzé de temps en temps, le gorille, bien sûr.
Ouais.
Et la bipédie tout court existe chez tous les oiseaux et existe chez certains dinosaures. Qui sont aussi sur les deux pattes postérieures.
Bien sûr.
Donc c'est une vieille histoire, quoi. Et souvent l'évolution, c'est intéressant parce que l'évolution invente des choses, mais invente des choses avec des limites. Son imagination n'est pas infinie et elle retombe souvent, non, quelquefois, dans le même genre d'idées, d'adaptation, de création, d'astuces, etc.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a plein de messages pour vous de la part des auditeurs et également sur l'application de France Inter où vous pouvez réagir.
France Inter. La Terre au carré.
Allez Camille, on passe au vert, direction l'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Une invasion de pigeons dans la commune de Beaumont.
They're coming. Ah, ils donnent des frissons, hein,
les petits oiseaux
du coq. Non, alors,
c'est Hitchcock,
enfin, c'est à en croire certains habitants de Beaumont, justement, on n'en est pas loin.
Ah ben, c'est comme Hitchcock. Vous avez des pigeons partout, c'est noir de pigeons sur les clochers, etc.
Ah ben, il y a une 400 à peu près, sur un petit périmètre de 20 mètres carrés, quoi. Je veux dire, c'est une horreur.
Voilà, alors ce couple habite le centre-bourg où de nombreux bâtiments et maisons sont vides depuis plusieurs années, squattés par des locataires à plumes qui ont donc largement la place de prendre leurs aises. La présence de pigeons étant bien sûr assez universelle, mais là, le décor est plutôt propice. Oiseaux qui, vous le savez, laissent malheureusement beaucoup de traces.
Vous avez des rues étroites qui sont, comment ça s'appelle, crépi de Fiente, Notre-Dame de Saint-Pierre, qui est l'église romane. À l'arrière, vous avez la statue Saint-Benoît, qui est immaculée de Fiente au sol. Vous avez la place Saint-Pierre, pareil.
Et juste à côté de chez Roger Bergeau, qu'on vient d'entendre, Mathieu, il y a l'appartement d'André,
ouais.
André Bousset, qui a rénové un bâtiment pour le louer il y a plus de 2 ans, mais qui lui reste sur les bras depuis tout ce temps-là.
Ben, c'est la cata, voilà. Les jeunes, ils viennent, ils regardent, oui, c'est bien, dedans, mais quand ils voient dehors, ben, ils me disent non. Je suis même moi réticente. Par rapport à l'environnement, c'est pas propre, hein, il faut dire les choses telles que c'est. Hein. Ça sent mauvais déjà, il y a des merdes de pigeons partout, en parlant poliment, voilà.
Alors un collectif contre la prolifération de pigeons à Beaumont a été créé par Roger Bergeau, qui se dit lanceur d'alerte. Il a déjà eu affaire au même problème à Chamalières, la ville de Giscard au passage. Il m'a envoyé par mail, alors tous ses dossiers, ses photos, ses courriers, il a même contacté l'agence régionale de santé.
Évidemment, quand je les ai rencontrés avec les photos à l'appui, ils ont bondi. L'ARS a donc lancé une injonction au maire de Beaumont, le mettre en demeure de faire le nécessaire pour éradiquer et diminuer la population.
Bon alors le maire, alors qu'est-ce qu'il dit ?
Alors je l'ai appelé, hein, monsieur le maire, bien sûr, il s'appelle Jean-Paul Cuzin. Il a d'abord un petit peu fait le coup de la patate chaude en pointant les bâtiments de France.
Il y a un gros travail d'urbanisme à faire, de réhabilitation, qui est rendu compliqué parce que ce bourg est un bourg qui est classé et il faut donc composer avec les services des architectes des bâtiments de France pour faire quelque chose qui corresponde aux prescriptions qu'ils peuvent nous demander de mettre en œuvre.
Mais il a quand même lancé des opérations anti-pigeons, colmatage des trous dans tous les bâtiments de la municipalité. C'est fait, ça a coûté 17 000 euros, mais ça peut jamais vraiment tenir dans le temps parce que les pigeons vont se réinstaller à chaque fois ailleurs. Et donc, il y a un autre mode d'action qui est en cours.
C'est la construction de ce qui s'appelle un pigeonnier contraceptif.
C'est quoi ?
Alors, ben ça, je vais vous expliquer parce que là, je fais le malin aujourd'hui, mais je connaissais pas il y a quelques mois. C'est quelque chose qui est bâti sur des pilotis, donc en hauteur, qu'il faut mettre à une distance qui permette d'éloigner les pigeons du lieu où ils se sont habitués. Il faut donc capturer les pigeons, les introduire dans le pigeonnier contraceptif, dans lequel ils vont être captifs pendant un certain nombre de temps et où ils seront très bien choyés, c'est-à-dire qu'on va leur donner à boire, à manger dans de bonnes conditions. Et lorsque les œufs sont pondus, eh bien, il faut les stériliser. Et là, pour le coup, ils ne vont pas éclore. Donc, il n'y aura pas de nouvelles pontes.
Voilà, installation prévue après l'hiver. Il devrait même faire venir un fauconnier pour qu'un rapace prédateur des pigeons termine de les éloigner. Tout cela sans vouloir dramatiser, cela dit. Hein.
Ce n'est pas les oiseaux d'Hitchcock quand même. Hein. Mais je comprends que pour des riverains, ça soit problématique et on y travaille et j'espère bien que très rapidement, on aura résolu la situation.
Bon, alors Roger Bergeau, lui, serait bien tenté par une méthode un peu plus radicale.
Il faut faire des prélèvements.
Donc vous, vous êtes pour leur tirer dessus, quoi.
Non, alors en termes de chasse, on ne parle pas de tir. D'abord, vous n'en aurez pas le droit. On parle de prélèvement.
Oui. Et donc, nous, c'est pareil.
Si on... Eh oui, mais non, mais c'est comme ça. Bon, il faut les baisser la quantité parce qu'ils se reposent à 4-5 fois par an. Et donc, c'est devenu infernal, quoi. Madame, je vous invite à venir réhabiter chez nous. Quand vous rentrez, que vous glissez sur les fientes et que vous avez 4 cm de fientes partout, vous faites quelque chose.
Alors attention, à la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, veille. Et cette détestation du pigeon, le pigeon bisé plus précisément, c'est la plus répandue des 350 espèces. Est-ce que vous savez à quand elle remonte?
Non, pas du tout.
Début du XXe siècle, la détestation, ils prolifèrent dans les villes et deviennent des intrus insupportables et potentiels vecteurs de maladies. Donc faut les éliminer. Hein. Par exemple, dans les années 30, à New York, on bannit les élevages sur les toits des immeubles avant d'organiser carrément des campagnes d'empoisonnement à la strychnine. C'est très toxique, la strychnine. Mais tout cela, mais finalement, c'est quoi le résultat de notre œuvre à nous, humains, qui avons commencé à domestiquer les pigeons en Égypte. C'était il y a 4000 ans.
Voilà, autant des pyramides. Bon, bah, on espère que André va pouvoir louer son appartement à Beaumont, en tout cas, voilà, que l'histoire va bien se terminer.
Pour elle.
Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr.
Yves Coppens, les pigeons, ça vous inspire?
Vous avez un truc, vous, pour les faire partir?
Ouais, moi, ça me rappelle l'expression, on est le pigeon de l'affaire, quoi. D'une certaine manière. Non, j'ai pas de truc pour les faire partir.
Bon, en tout cas, si ça vous vient, ben, ça pourra aider ces habitants qui sont en détresse, visiblement.
Oh, il y en a ailleurs aussi. Hein.
Allez, on parle de bipédie dans un instant avec vous. Tiene su fin. C'était Dom Lena.
La Terre au carré, le magazine scientifique de la planète. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il a connu tous les présidents français quasiment de la Ve République et de nombreux princes et même le pape Yves Coppens dans
deux
ce livre.
Deux papes,
bah oui, quand même, c'est pas mal. On n'en connaît aucun.
Lesquels vous avez connus?
L'actuel, François, et puis le précédent, Benoît XVI.
Benoît XVI, il y a même les photos dans ce livre, Le Savant, le Fossile et le Prince, du Labo au Palais. C'est chez Odile Jacob, où vous racontez plein d'anecdotes sur votre parcours. Nous, on parle de la bipédie ensemble cet après-midi. Avant de passer aux questions des auditeurs, à quoi ça se voit la bipédie sur un squelette? Est-ce que tout est dans les pieds, Yves Coppens, ou pas?
C'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas trop à quoi on avait affaire en récoltant les éléments de Lucie. Et quand on a regardé le détail, on a vu, enfin le crâne, on n'en avait que des morceaux, hein, donc c'était pas très brillant. Mais par contre, la colonne vertébrale, pas les vertèbres cervicales d'ailleurs, qu'on n'avait pas non plus, mais la colonne vertébrale révélait les courbures. d'une colonne de quelqu'un de redressé. Parce que, évidemment, il y a un équilibre entre les différents, les différentes courbures, ce qui n'existe pas. Enfin, imaginez quelqu'un de quadrupède, il n'a pas de raison d'avoir la colonne installée comme celle de quelqu'un qui est debout. La vôtre et la mienne, qui quelquefois font mal d'ailleurs. Et puis en bas, eh bien, imaginez un quadrupède, encore une fois, dans votre tête. Vous voyez le chien ou le chat, ses organes ne pèsent pas du tout sur le bassin. Alors dès qu'on est debout, le malheureux bassin, il doit supporter l'ensemble des organes. Donc qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un bassin en pression. En pression, c'est-à-dire qu'il devient beaucoup plus large et beaucoup plus court en hauteur.
Mais les pieds là-dedans ?
Tout simplement. Attends, j'y viens. J'arrive, je vais être la
patience,
tête au pied.
Patience,
Mathieu. Ah oui, c'est fou. Hein.
Il est impatient.
On s'en va tous les deux.
Après, il y a le membre inférieur. Et le membre inférieur, c'est d'abord le fémur. Et sur Lucie, le fémur est bien. Il a un col un petit peu long, comme tous les genres de cette époque. Et puis ensuite, il a la diaphyse, qui est le l'axe principal de l'os, qui est oblique et qui tend vers le centre, la ligne de gravité du corps. Et on arrive à la base, à la partie inférieure du fémur. Et là, le fémur s'articule sur le tibia, et ça ne va plus du tout. Et là, je me rappelle que l'étudiante qui faisait sa thèse là-dessus, qui s'appelait Christine Tardieu, m'avait dit à partir du genou, ça marche pas. C'était seulement ça marche pas, ça marche plus. C'est-à-dire qu'en fait, Lucie, à partir du genou, a un genou qui est instable, a une cheville qui est instable, et a un pied avec pas de voûte plantaire, avec un gros orteil qui est un petit peu divergent, avec un appui qui est un appui externe, et avec des pas qui sont extrêmement rapprochés, au point que quelquefois ils sont même croisés.
Ah oui.
Et ceci veut dire que...
Donc le haut était bipède, c'est ça? Et le bas, pas du tout?
Absolument.
Ah oui,
absolument.
C'est drôle ça, ouais.
Et les membres supérieurs étaient tout à fait organisés
bipède,
pour... Non. Membres supérieurs.
Supérieurs.
Tout à fait pour
l'arboricolisme. Pour aller dans les arbres. Okay.
Mais Lucie, finalement... en général, les gens ne se souviennent pas ça, mais Lucie, en général, était donc bipède de la tête au tibia.
C'est ça.
Et était ensuite arboricole, du tibia au pied compris, et puis aussi sur le membre inférieur. Alors là, je voudrais dire quelque chose, parce que mon prédécesseur au Collège de France, André Leroy Gourand, disait quelque chose de très joli. Il disait, il faut se résigner. Notre histoire a commencé par les pieds. Et en l'occurrence, il est mort, le malheureux, sans quoi je lui aurais dit non, pas du tout. Il faut au contraire se réjouir. Notre histoire a commencé par la tête.
Ouais.
Alors justement, Dominique sur franceinter.fr, la relation bipédie et évolution du cerveau humain est-elle un pur hasard, Yves Coppens?
Non, parce que quand on est bipède, ça déverrouille en quelque sorte la position du crâne. Imaginez un crâne avec la colonne vertébrale, toujours le même quadrupède. Le trou occipital est tout à fait à l'arrière et le crâne est un petit peu limité dans son développement. Si vous passez la colonne vertébrale en dessous, ça permet le développement plus facile du crâne. D'autre part, je suis persuadé, bien que le cerveau reste de très petite taille pendant très longtemps, chez Toumaï, c'est 350, moins de 400 cm3. Chez Lucie, c'est un peu plus de 400, enfin, c'est pas beaucoup non plus.
Et nous, c'est combien pour...
Le vôtre, d'après ce que je vois, c'est au moins 1400, oui. C'est au moins 1000 de plus. Oui.
Ouais,
bravo.
Oui. François, en quoi la bipédie est un avantage dans les milieux ouverts?
Je me le demande, et je suis toujours étonné par les solutions que choisit la nature, d'autant plus que le fait d'être debout, comme vous savez, ça fait ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait des maux de dos, ça fait des problèmes d'hémorroïdes, ça fait des problèmes cardiaques, parce que il faut remonter le sang jusqu'au cœur, ça fait plein de saloperies, quoi. Et en fait, on est resté debout, donc ça a été incontestablement un avantage. Et en l'occurrence, c'est étonnant, mais ça s'est arrivé ainsi au moment de cette ouverture du paysage. Donc ça a été véritablement la réponse trouvée par la sélection naturelle. C'est quand même une sélection. La réponse trouvée par la sélection, alors que ça entraînait tous ces problèmes. Les problèmes d'accouchement, par exemple. L'accouchement est devenu difficile, et il est difficile, enfin il est différent... chez les femmes de ce qu'il a été chez les autres primates, par exemple. Et il se fait en avant de l'ischio, ça s'appelle antélischiatique. Et c'est une sortie beaucoup plus compliquée que la, l'accouchement habituel. Parce qu'il y avait conflit entre le redressement du corps et puis tout le système obstétrique.
Mais ces espaces ouverts avec la bipédie, ça nous a donné la possibilité aussi de nous aventurer bien au-delà.
Découvrir le monde.
Ça a donné sûrement beaucoup d'autres avantages que l'on ne perçoit peut-être pas en totalité. Mais il est évident que ça a donné une vue à l'horizon, que ça a donné un ascendant sur les bestiaux. Ça, vous le savez bien. Quand on est debout par rapport à quelqu'un qui est assis, on domine.
Ah.
Le gorille qui veut faire de l'effet, met debout et il se tape sur la poitrine.
C'est ça.
Après, un humain face à un éléphant, quadrupède.
Ah oui, c'est ce qui va toujours très gêner lorsque je suis malade. Parce que quand je suis malade, je suis allongé. Ah. Et le médecin est debout, ça m'agace.
Janine, où en est la recherche concernant les liens entre bipédie et apparition du langage articulé?
Alors, le langage articulé, il se trouve que le redressement du corps, en effet, s'est fait autour de 10 millions d'années, à mon avis, tandis que cette transformation des voies respiratoires supérieures ne s'est réalisée qu'autour de 3 millions d'années. Et elle s'est réalisée pourquoi? Parce qu'il y a un changement climatique. Le changement climatique, c'est à nouveau un grand coup de sécheresse. Alors, j'ai dit 10 millions tout à l'heure pour l'Antarctique, et 3 millions, c'est l'Arctique. Avec la glace sur le Groenland, par exemple.
Ouais.
Et 3 millions d'années, nouveau coup de sec, et obligation pour tous les animaux de la Terre à ce moment-là, et notamment des tropiques, de se transformer pour survivre. Et le pré-humain devient humain, et il devient humain en transformant sa tête, mais en transformant ses dents, et en transformant aussi ses voies respiratoires supérieures. Les voies respiratoires supérieures, ça fait descendre le larynx. À ce moment-là, la symphyse, la partie antérieure de la mâchoire inférieure se réduit, le palais, la partie supérieure, s'approfondit, la langue devient plus mobile, et il semble que le langage qui auparavant était modulé devient articulé.
Donc Lucie, c'est un peu la transition, justement, entre ces différents états que vous décrivez là, Lucie, parce qu'elle est pile à 3,2, donc...
C'est ça, Lucie a encore derrière la partie inférieure de la mâchoire inférieure, la partie arrière de la mâchoire inférieure, ce qu'on appelle un plan alvéolaire. Et le plan alvéolaire, c'est que l'os, c'est très épais, et ça gêne la langue. Elle peut pas... Vous pouvez pas articuler, Lucie.
Ouais.
Elle disait sûrement des tas de choses, mais pas de cette manière-là.
Alif Coppens, vous restez avec nous, parce que c'est l'heure de retrouver le feuilleton de la semaine. Et on vous emmène même en stage de survie grâce à Antoine Lee. Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour Antoine.
Voilà, vous êtes le bonjour d'Yves Coppens parce que vous avez décidé, on le rappelle, de prendre l'air en plein confinement
bonjour.
Dans une forêt près de Dijon.
Bonjour.
Oui, une façon de renouer avec la nature en mode Rambo avec un minimum de matériel. Pour ne pas mourir de froid ni de faim, j'ai demandé l'aide d'un spécialiste, Damien Lecouvet, un ancien commando de l'armée de l'air, converti dans les stages de survie avec sa société Time on Target.
Alors là, je vais vous montrer un piège qu'on apprend pendant les stages de survie. C'est interdit en France de poser des pièges tels que celui-là. Mais c'est très intéressant de savoir faire un piège si jamais vous vous retrouvez dans une situation de survie. Par exemple, vous êtes perdu en montagne, vous n'avez rien à manger, vous décidez de poser un piège. Et bien, on pourra rien vous reprocher car en France, cela s'appelle l'état de nécessité. J'ai besoin pour fabriquer ce piège d'à peine quelques bouts de bois et un morceau de ficelle, un lacet éventuellement. Et l'animal, quand il posera la patte dessus, se retrouve accroché en fait dans les airs et ça évite les autres gibiers opportunistes de venir piquer notre proie.
Ici, dans la forêt dijonnaise, on peut croiser quel type de gibier?
Vous avez tout le grand gibier français, vous avez des cerfs, vous avez les chevreuils, vous avez beaucoup de sangliers, des grandes hordes de sangliers. Quelques chanceux ont photographié des chamois, ce qui est quand même assez exceptionnel.
Vous parliez des cerfs, cette nuit, on en a entendu, et encore ce matin. Et là, on est fin novembre, c'est normal ça?
Ce n'est pas normal à cette période-là d'entendre les cerfs. Ça fait 5 semaines que ça devrait être terminé. C'est problématique parce que, en fait, il faut savoir que c'est une période où les grands mâles brament pour, d'une, attirer les femelles et deux, pour impressionner les autres mâles et ils viennent à se battre. Et c'est des périodes très épuisantes pour les grands cerfs. On craint qu'il y ait beaucoup de décès dans les gros mâles parce que ils mangent pas et à force de s'épuiser comme ça, ils risquent de tout simplement tomber de fatigue et ne jamais se relever, et ce serait très dommageable pour la faune locale. Et on va essayer de trouver les réponses pour comprendre ce comportement vraiment très bizarre à cette période de l'année. Donc là, je suis en train de disposer les morceaux de bois pour faire une plateforme quand il posera la patte dessus, il se retrouvera pris au piège. Il faut éviter de passer trop de temps sur l'endroit où on pose le piège, car c'est autant de temps où vous allez laisser votre odeur. Donc il faut se faire le plus discret et le plus rapide possible.
Ce qu'on apprend nous en stage, il y a deux générations ou trois générations en arrière, tout le monde savait faire ça, tout le monde savait se débrouiller dans la nature, et c'est des savoirs qui se sont perdus. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont envie de renouer avec ces savoirs perdus. Ça peut être tout simplement de l'évasion, ça peut être de la découverte, ça peut être de l'apprentissage, de la curiosité. Et c'est vrai qu'on remarque quand même un gros engouement pour nos stages.
Alors ici, je vais juste vous montrer ce que ça donne si un animal venait à passer sur notre trappe. Et je vais prendre un gros morceau de bois pour matérialiser ça, pour vous montrer que c'est quand même assez puissant. Le morceau de bois va se retrouver coincé à l'intérieur du collet et va être projeté dans les airs. C'est assez ingénieux comme mode de piégeage. Donc ça, moi, je l'ai appris auprès des peuples amazoniens qui utilisent encore beaucoup ce type de piège pour se nourrir, tout simplement.
Vous proposez des stages de survie et parfois ça fait polémique. Qui dit survie, parfois on entend survivaliste, fin du monde, collapsologue. Vous vous situez comment dans ce débat-là ?
Effectivement, il faut bien différencier survie de survivalisme. La survie, c'est par définition le fait de répondre à une situation qui peut être dangereuse, savoir se débrouiller dans la nature. Le survivalisme, c'est plutôt urbain. Ça va être plutôt de prévoir, je sais pas, une chute économique qui consiste à avoir une autonomie chez soi, avoir suffisamment de vivres pour des mois. Et c'est vrai qu'on mélange un peu tout. Le survivalisme pourrait avoir tendance aujourd'hui à ternir un petit peu l'image de la survie en général, dans le sens où il peut y avoir des fois des connotations politiques, malheureusement. Et ça, c'est pas bon, nous, pour notre activité, parce qu'on essaye justement de sortir de ça. Moi, j'essaye de sensibiliser les gens à l'environnement, et pas du tout... Je conseille pas aux gens de s'armer, de se retrancher chez eux. C'est complètement opposé à ma philosophie de vie.
Voilà, c'était le dernier épisode de ce reportage, Antoine Lee. Toutes les photos d'ailleurs et même vidéos sont à retrouver sur le site de France Inter à la page de la Terre au Carré.
Et si vous voulez en savoir davantage, Damien Lecouvet vient de publier le guide de l'aventurier aux éditions Solar.
Merci Antoine, à très bientôt. Yves Coppens, la vie d'un paléoanthropologue, est-ce que ça ressemble parfois à un stage de survie?
Ça dépend. Si le site que vous exploitez, évidemment on ne le choisit pas, se trouve près d'une ville, il n'y a pas de problème. Vous entrez tranquillement à l'hôtel le soir.
Oui.
Quand vous êtes à 1000 km de votre base, comme ça m'est arrivé en Éthiopie, vous vous débrouillez sur place, bien sûr. Oui. Et on apprend des tas de trucs.
Oui.
Par exemple, avec les indigènes, j'avais appris que l'eau, qui est l'eau de du fleuve que nous buvions, qui est extrêmement chargée de sédiments, pour faire floculer, pour résoudre l'histoire, il y a une racine d'épineux, mais pas n'importe lequel des épineux, qui peut être épluchée. Si vous remuez la racine dans l'eau, finalement, tout l'argile flocule, dégringole au fond, et vous avez une eau à peu près
claire. Ah, mais génial! Mais c'est avec vous qu'Antoine Lee aurait dû partir faire un stage de survie, on avait tout apporté.
J'ai une autre histoire qui est drôle. Lorsqu'on se fait piquer par des serpents, là, j'avais tous les sérums nécessaires. Ouais. Par contre, quand on se fait piquer par des scorpions, et ça arrive, il n'y a pas de solution. Parce qu'il y a pas, donc, on donne un tonique cardiaque parce que ça remue un petit peu le cœur. Donc, ça, c'est entendu. Et d'autre part, un toubib de Bruce m'avait appris un truc qui est le suivant. Il faut s'électrocuter. C'est-à-dire que on s'assoit sur le bord de sa voiture, on débranche un des pôles des accus, et puis on se fait des petites décharges, et il paraît que ça fait coaguler le...
Bon. Vous n'avez pas testé quand même?
Si.
Ah, vous avez testé?
Moi, j'ai pas testé.
Ah.
Mais j'ai eu dans mon camp, d'une part, un Éthiopien qui s'est fait piquer, et d'autre part, un collaborateur français qui s'est fait piquer aussi. Alors c'était drôle, on s'amusait quoi.
Bon ben voilà, les conseils de notre Rambo à nous, Yves Coppens. Allez, dans un instant, la saga des humains avec quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Evelyne Heyer du Muséum National d'Histoire Naturelle.
La nuit 17 à 22, nous étions là. Toi l'ange était lié d'ornement froid. Moi, dans une colère qui ne meurt.
Christine and the Queens, nuit 17 à l'instant sur France Inter. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, Yves Coppens.
Oh, c'est triste.
Oui, merci beaucoup d'être venu et je renvoie vers ce livre, Le savant, le fossile et le prince, sorti chez Odile Jacob du Labo au Palais. Il y a plein d'anecdotes pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur votre parcours.
Et puis il est illustré de façon très précise.
Absolument, merci beaucoup.
Je suis fier de mes archives.
Et on termine comme tous les jeudis avec la saga de l'humain.
France Inter. La Terre. Au carré.
Bonjour Evelyne Ayer.
Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez des Yamnaya, c'est ça?
Oui Mathieu, pas sûr que vous les connaissiez.
Oui, c'est vrai.
Pourtant, ils sont importants pour l'histoire de l'Europe en fait. C'est un peuple d'éleveurs nomades des steppes, de l'âge du bronze, la période juste après le néolithique, il y a environ 4 à 5 000 ans. Ils vivaient au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, dans la région de la Volga, et ce sont les premiers à avoir développé les chariots à roues, chariots qui étaient tirés par des bœufs.
Ah, quand même, oui.
Et on a découvert, il y a 5 ans, qu'ils sont importants dans l'histoire de l'Europe. En analysant l'ADN des populations européennes, on a pu montrer qu'ils ont contribué fortement à notre pool génétique. Les populations du nord de l'Europe, comme les Britanniques actuelles, ont jusqu'à 80% de leur génome qui remonte à ces nomades des steppes. Dans le sud, comme en Espagne, le pourcentage atteint 30%. On connaît une seule exception en Europe qui n'a pas été touchée par cette nouvelle vague de migration, la Sardaigne. Dans le génome des Sardes, aucune trace de ces nomades des steppes. Autrement dit, il y a environ 5000 ans, ces gens des steppes sont arrivés en Europe et les analyses d'ADN des populations anciennes. Avant qu'on fasse ces analyses, presque personne ne pensait à cette arrivée majeure des nomades des steppes, quelques millénaires après les agriculteurs.
Et alors Evelyne, que sait-on d'autre sur cette grande migration ?
Eh bien, des chercheurs se sont intéressés à un chromosome bien particulier, le chromosome X. C'est ce chromosome, avec le chromosome Y, qui détermine le sexe génétique. Les femmes sont XX, alors que les hommes sont XY. Or, si l'on regarde les chromosomes X d'Européens actuels, ceux-ci ont peu de traces de ces nomades des steppes. Autrement dit, peu de traces de femmes venues des steppes. Ce sont essentiellement des hommes qui ont contribué à notre patrimoine génétique. Est-ce que c'est une invasion de guerriers ou un mélange petit à petit par les hommes se mariant avec des femmes locales? Encore difficile à dire.
Mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus alors?
Eh ben, c'est une excellente question. Il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, il y a l'hypothèse de la première grande épidémie. En plus de l'ADN des humains, dans les squelettes, on peut retrouver l'ADN de certains pathogènes qui ont affecté les humains. Or, il y a 5000 ans, c'est la période où on retrouve en Europe les premières traces de Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste. Ainsi, certains chercheurs pensent que les populations locales auraient été affaiblies par la peste, ce qui aurait permis à ces nomades de venir en Europe. Ou encore, que ce sont eux qui auraient amené la peste dans leur bagage. Une autre hypothèse est plutôt climatique, avec un changement climatique qui aurait rendu les terres moins exploitables par l'agriculture qui aurait reculé, alors que le climat aurait été plus favorable au mode de vie des éleveurs nomades. Ainsi, si vous n'êtes pas sarde et que vous avez au moins un ancêtre européen, vous descendez à la fois de chasseurs-cueilleurs, peintres de Lascaux, d'agriculteurs venus du Moyen-Orient et de nomades venus des steppes, les Yamnaya. C'est un beau mélange qui a façonné l'Europe.
Ben, on est très content de le savoir, en tout cas. Merci beaucoup, Evelyne Ayer. On vous retrouve la semaine prochaine avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et je rappelle que vous êtes également l'autrice de ce livre, L'Odyssée des Gènes, qui est publié chez Flammarion. Merci beaucoup, à bientôt.
Bonne semaine.
Au revoir.
Au revoir.